LSD, la série documentaire, un podcast France Culture.
Les tubes, ouais, disons-le, les hits, c'est comme les odeurs, ça rappelle le bon pain de ma grand-mère, j'ai n'importe quoi. Une enfance, une adolescence, une histoire d'amour ou une mauvaise période, enfin, c'est une époque.
Moi, je regardais le sport à la télé, donc il y a eu la victoire de Noah, il y a eu des Coupes du Monde et en demi-finale d'équipe de foot. Il y a le Mitterrand qui est arrivé, mais ça n'a pas changé grand-chose à notre vie, quoi.
Cette victoire est d'abord celle des forces de la jeunesse.
On ne sait jamais quel est le single, quel est le tube, c'est les gens qui décident.
Arrêtons-nous quelques instants sur le projet de loi de Charles Pasqua. Une certitude, il marque un tournant important dans la politique française en matière d'immigration.
C'est dans l'air du temps, alors il y a l'air du temps, le son.
Oui, mais qu'est-ce que c'est que l'air du temps?
Moi, je sais rien.
Les tubes, c'est quelque chose qui finit par rentrer dans notre corps, vraiment, dans notre peau. C'est des espèces de lifting instantané, sans bistouri. Et c'est très magique et c'est très profond.
Les tubes de ma vie. Un documentaire de Jérôme Sandelars et Agnès Catou. Deuxième épisode, mon adolescence pop-rock. En 1981, j'ai le cœur grenadine et la musique dans la peau. J'ai 12 ans. C'est l'âge des premières booms, l'entrée dans l'adolescence, des années d'effervescence. À la maison, personne n'écoute de musique, mais moi, je plonge. Walkman sur les oreilles, roller aux pieds, la musique me suit partout. À la télé, c'est les débuts du top 50, les premiers clips. Aux enfants du rock, je découvre terrifié l'incroyable Thriller de Michael Jackson. On frissonne, mais on en veut encore. C'est aussi l'époque des virées chez les disquaires et des compilations sur cassette, qu'on s'échange entre amis. Sur l'une d'entre elles, retrouvée dans un vieux carton, je distingue encore les titres. Chacun fait ce qui lui plaît, la salsa, On the Road Again, C'est la Watt, Né quelque part, Trop de blabla, ou encore Cendrillon. Une trentaine d'années plus tard, la magie opère toujours. Mais cette fois, les artistes quittent la bande magnétique pour prendre vie face à moi. Ensemble, nous évoquons les secrets de fabrication de leur tube.
Est-ce que vous l'avez là, le 45 tours de Chacun fait ce qui lui plaît?
Attendez, je peux vous en vendre un. À chaque fois que j'y vais dans les vide-greniers en province ou en région ou dans les...
Valis.
Je le cherche et j'achète. Et maintenant, quand je regarde tous les 45 tours dans les boîtes, comme c'était la fameuse pochette rose, je le vois presque immédiatement. Et j'en ai plein.
Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait?
Je crois que j'ai remis la radio.
Comment elle est née cette chanson « Chacun fait ce qui lui plaît » de Chagrin d'amour?
Alors,
de Bourgoin.
Chacun fait, c'était juste une maquette pendant des années et des années. Et je dois dire que je sentais un potentiel là-dedans. À la base, c'est juste un type qui a bu tout ce qu'il avait à boire chez lui. On est à 5h du mat, il sort boire un verre, il rencontre une prostituée dans un bar et ils vont à l'hôtel, point. Et en plus, ah oui, ça c'est la fin du dialogue du type, mon Dieu, je peux même pas jouer, en plus il se rate. Donc c'est une chanson triste, c'est une chanson tout à fait incorrecte politiquement, ça n'existe plus maintenant, ce genre de choses. Et franchement, on peut le regretter.
5h du mat, j'ai des frissons. Je claque des dents et je monte le son. Seul sur le lit dans mes draps bleus froissés, c'est l'insomnie, sommeil cassé. Je perds la tête et mes cigarettes sont toutes fumées dans le cendrier. C'est plein de Kleenex et de bouteilles vides. Je suis tout seul, tout seul.
Je pense qu'il a raison, cette chanson. Il est trop explicite. Et puis, parler d'une pute dans une chanson qui passe, genre, tous les jours à la radio pendant 4 ans, et puis aujourd'hui je l'entends encore tous les étés. J'ai des copains qui m'envoient une vidéo, ils sont sur la route des vacances et à Nostalgie, et on entend la chanson.
7h du mat, l'hôtel, je paie, j'abrège, je fouille mes poches, je sais c'est moche. Son sourire rouge, son corps qui bouge, elle fait glisser son cœur croisé sur sa peau bronzée. T'as les bas nylon qui filent sur le dodon.
Cette chanson, elle est très cinématographique.
Oui. Et moi, j'arrivais de l'école de cinéma où j'ai connu Valli, et je pensais sérieusement, évidemment, continuer à écrire des scénarios, tout simplement. Et donc, la chanson, c'était comme le cinéma, on raconte des histoires, on exprime des sentiments. Donc, la chanson, à la base, c'était une écriture comme une autre. Après, ça m'est venu tout simplement parce que ça rapportait du fric. Faut quand même être clair, quoi. Et puis, c'est ça qui a marché. Et à l'époque, on ne se posait pas de questions, quoi. C'est ça qui marche, et ben c'est ça que tu fais.
Ses ongles m'accrochent, tu viens chérie. Le lit qui craque et les volets claquent. Seule dans le lit, dans ses draps bleus froissés. Sur sa peau lisse, mes doigts glacés. Elle prend la pause, pense à autre chose. Ses yeux miroirs envoient mon regard. Des anges pressés dans ce bleu glacé. Me disent c'est l'heure, je leur dis quelle heure.
Et vous vous souvenez vraiment pas de ce qui s'est passé?
Non, vraiment pas.
Il y a des images derrière chacune de vos phrases.
Oui, d'ailleurs. On a fait un clip, ce qui à l'époque était absolument rarissime, en tout cas chez les Français. Hein. On a fait un clip à la façon d'un film noir. C'était en noir et blanc, dans des bars, des endroits un peu louches. Enfin, il y avait un flic, il y avait déjà une prostituée. D'ailleurs, moi, je jouais à un tableau dans le bois de Boulogne. Enfin, c'était assez rigolo quand même. Hein. C'était un petit film noir, sans prétention, mais bien fait.
Il y a la terre.
Sous tes pieds, il y a l'enfer. Chacun fait ce qui lui plaît.
Mon Dieu, je peux même pas jouir.
Tant pis pour toi, il faut dormir.
Philippe Bourgoin, comment vous est venue l'idée de faire appel à Grégory Ken, auquel Valli va donner la réplique?
Oui. On m'a parlé de Grégory, tout simplement. Et j'ai appelé. Je suis tombé sur son répondeur. Et l'histoire veut, et elle est vraie en plus, en 30 secondes, j'ai dit, c'est ce mec-là qu'il nous faut, quoi. Bon, le côté voix grave, articulation, il avait la voix qu'il fallait, voilà, point à la ligne.
Et en plus, ce qu'il faut ajouter pour cette histoire de répondeur, à l'époque, en 81, tout le monde n'avait pas de répondeur. Et je me souviens que tout le monde, quand je partais aux États-Unis, leur demande, c'était ramener les Santiago et ramener des répondeurs. Donc, déjà que quelqu'un en a un, c'était quand même extraordinaire. Et puis, avec la voix, Grégory, effectivement, il avait une belle voix. Et puis aussi, il était dans Mayflower, il était dans le Starmania. Il jouait Ziggy avec France Gall, avec Balavoine. Il a fait Godspell. Il a fait absolument tous les comédies musicales. Donc, du coup, il savait jouer. Et en plus, poser sa voix et évidemment chanter. Et ça, c'était assez incroyable avec lui.
C'est une rencontre professionnelle formidable, quoi. Voilà.
Moi, j'étais un fils à maman. Tous les soirs en m'endormant, elle me disait quand tu seras grand, tu danseras le prince charmant dans la belle au bois dormant. Dans la belle au bois dormant.
Et vous, Valli, alors comment vous êtes retrouvé embarqué dans cette aventure, cet enregistrement, alors d'une nuit au studio Marquette?
Ben moi, j'étais à New York, évidemment, pour l'université. Le rap naissait à l'époque, quand il y avait des fêtes d'université, il y avait du punk, il y avait du disco et un tout petit peu de rap. C'était un truc dans l'air. Et donc, quand je suis arrivé à Paris en mai 81, et Philippe a eu l'idée, grâce au clash avec The Magnificent Seven, de faire un rap de cette chanson. Il me dit, viens en studio avec moi, parce que je veux être sûr qu'on a la bonne ambiance, que ça fait rap. Voilà, donc je suis allée pour ça. Et puis, à fur et à mesure, Grégory a posé sa voix, c'était assez extraordinaire à voir. Et puis moi, j'étais poussée devant le micro, je parlais... Est-ce que je peux avoir un café, s'il vous plaît? C'est tout ce que je savais dire, presque. Et je me souviens particulièrement la phrase « Por la chapelle, je me sens pas belle ». Et moi, je disais « por la chapelle ». Non, c'est « porte de là ». Et en plus, comme il m'avait fait écouter Gainsbourg, et après j'ai appris qui était Jane Birkin, je sentais « oh, je fais un peu ma Jane Birkin » parce que j'étais, pas pour l'accent, mais juste de dire je participe à ce truc et ça m'a vachement plu comme idée.
Alors je me sauve dans le matin gris, c'est plein de cajots et pas de taxi. Les chats qui se tapent, le petit ronron, les éminents, les petits bateaux. Pour de l'âge pleu, je me sens pas belle, les bigoudis sans plus en plus. Mon studio, j'aspirateur, la vidéo me fait un peu peur.
Madame Pipi a des ennuis.
Cette chanson, c'est que si elle a aussi bien marché, puisqu'il s'en est vendu 3 millions d'exemplaires, plus même, c'est qu'elle reflétait l'époque.
Moi, j'ai envie de dire oui, parce que ça correspond à l'élection de Mitterrand. D'ailleurs, je suis arrivée en France en mai 81, l'américaine qui débarque des années Reagan. On enregistre la chanson et puis Mitterrand élu. Donc moi, je connaissais rien. Je veux dire, franchement, le socialisme pour les Américains, c'est le communisme. Enfin bref. Et comme Mitterrand avait libéré les antennes pour faire des radios libres, c'était cette époque-là où on a pris cette chanson sur Énergie, juste qui débutait, et qui dit, on adore cette chanson, on va la passer 4 fois de suite. Et pour moi, c'est un marqueur de cette liberté qu'il n'y a pas 3 chaînes, il n'y a pas juste Europe 1, RTL et France Inter. Le FM s'ouvre. Et puis, aussi à cette époque-là, quand la chanson est sortie, on était encore dans la France de la variété. C'est-à-dire, notre premier Champs-Élysées avec Michel Drucker, c'était l'émission qu'il fallait faire, qui était regardée par des millions de gens. On a passé avec Michel Thor, et à cette époque-là, je pense que les radios libres, justement, a montré qu'il n'y a pas que le Fugueux Fugain, que j'adorais Michel Fugain, il y avait aussi quelque chose de plus edgy qui sortait. Donc, pour moi, c'est un marqueur. Et puis, ce qui est étonnant, c'est que tous les gens qui m'en parle encore aujourd'hui, disent, je me souviens la première fois que j'ai entendu cette chanson, il y avait le dentiste Philippe qui a cherché à se garer, qui avait 4 fois le pâté de maison avant de se garer parce qu'il voulait savoir ce qui s'est passé à la fin. Et puis, il y avait tous les gamins qui ont découvert cette façon de rapper. Et après, il y avait les Rita Mitsuko qui sont arrivés, il y avait Dao. Tout ça pour dire que je pense que c'était une façon d'écrire. Un peu comme Boris Bergman de Bachung, qui avait un autre genre d'écriture, un peu plus de la rue, en tout cas de la rue fin des années 70, début des années 80. Il y a beaucoup d'argot. Il y avait un langage et je trouve qu'on n'était plus dans la France de la variété ou la chanson à papa.
J'ai crevé l'oreiller, j'ai dû rêver trop fort. Ça me prend les jours fermés. Gisèle clappe dehors. J'aurais pas dû ouvrir à la roquine carmélite. La mère sup m'a vu venir. Dieu avait mis un kilt. Y a dû y avoir des fuites. Oh, oh, vertige de l'amour.
Alors Lavilliers, c'est le territoire. Sa terre, lui, c'est Saint-Étienne. Il chante le monde des prolos.
André Manoukian, pianiste et compositeur.
Et puis à un moment donné, ça va être une ouverture vers le Brésil, vers Cuba. Mais il fait pas les choses à moitié. Il va vivre là-bas. Il va s'imprégner de leur culture. Il va prendre les meilleurs. Quand il chante...
La salsa, non ?
Voilà. C'est une latine de Manhattan. Dre Barreto, c'est le seul gringo au milieu de toute une bande de Cubains qui le regardent et qui l'entourent avec des cuivres dans tous les sens, avec une danse. Et lui, bah, il devient le boss et le leader de ce truc-là. Donc, Lavilliers, quand il s'empare d'une culture, d'un style, d'un genre, il n'usurpe pas. Il se fond dedans. Et du coup, les gens à qui appartiennent cette culture... Ben lui en son gré, parce qu'il a mis le costume de leur ethnie et il ne l'a pas abîmé. Au contraire, il l'a porté haut.
C'est une latine de Manhattan, de la résine de Macadam.
Comment elle naît, l'idée d'une chanson, Bernard Lavilliers ?
Comment démarre une chanson sur une phrase, souvent ? Ray Barreto m'avait dit « la salsa ». C'est une latine de Manhattan. Oh, je me suis dit, génial, ça sonne, ouais. De la résine de macadam. Eh ben, hein, il faut la faire, la chanson. Vous avez 2 phrases, et c'est tout. Ah ben, de toute façon, il faut avoir dans son sac un maximum de mots, parce que tel mot, je vais le changer pour un autre, parce que ça sonne pas. Par exemple, je t'ai menti, je t'aime encore. Ah, j'étais content de beaucoup.
C'était dans quoi, ça?
C'est dans Trafic. Mmh. Je t'ai menti, je t'aime encore. Ouais. Ah ben ouais, ben, tu sais, on se fait des petites joies qu'on peut. Hein. Je vous promets que c'est vrai.
C'est quoi un tube pour vous, Bernard Lavilliers?
C'est long et creux.
Ça, c'est Boris Vian?
Oui. Franchement, c'est délicat parce qu'un tube, je sais pas. Je peux comprendre pourquoi Pouvoir n'a pas été en tube. Il y a une belle mélodie, ça se retient facilement. Mais c'est pas tout. Trop compliqué.
Pourquoi On the Road Again a été un tube?
Je comprends mieux parce que, d'abord, c'est pas une mélodie de moi. C'est Santa Maria, un Chilien qui vivait à Lausanne. Et on peut jouer toute la chanson sur les quatre mêmes accords. C'est très important. Donc, nous étions jeunes et larges d'épaules, bandits joyeux, insolents et drôles. On attendait que la mort, je chante trop vite, nous frôle on the road again, again. Donc, il y a à la fois le voyage, et c'est toujours les mêmes accords, mais ça ne lasse pas. Disons qu'en gros, je vous confie un secret. Une mélodie me racontera quelque chose. Je me mets la tête dans le casque, je me mets à l'écoute comme un chaman, et j'attends que la mélodie me raconte quelque chose. Donc, je commence par écrire « On the road again, again », ça. La mélodie me parle de voyage, la mélodie, bon, ça c'est pas original, mais me parle de l'Irlande, parce qu'elle a un petit côté celtique, entre guillemets. C'est une balade mélancolique. Elle a quelque chose de l'exil. C'est-à-dire, comme les Irlandais, chassés par la faim, ont atterri à New York, dans les bas quartiers, quand les Anglais les ont affamés, la guerre de l'Ira, tout se mélange avec moi à ce moment-là, et j'écris ma chanson. Donc je la situe là, la chanson. Quand je la chante, même encore maintenant, c'est comme si j'étais dans un bar de Calway et que je chantais pour eux.
Ami, sais-tu que les mots d'amour voyagent mal de nos jours? Tu partiras encore plus lourd. On the road again, again. On the road again, again.
Est-ce que vous arrivez à vous dire, tiens, là je tiens quelque chose, cette chanson, je suis quasi persuadé qu'elle va marcher?
Eh ben, si jamais je me suis dit ça, en général je me suis trompé. Le succès, admettons, ça devrait être une surprise plutôt qu'autre chose. Une bonne surprise. Ça ne devrait pas être un calcul de l'IA, l'intelligence artificielle. Donc je mettrai donc tout un tas d'ingrédients dans un mixeur, et je sortirai du Lavilliers pur jus 2024. Ah ouais, non, c'est une façon de tuer les artistes, ça. C'est-à-dire que de mépriser à tel point la création, l'imaginaire, qu'on va faire du fric, on va y arriver. Je préfère ramer pour essayer de trouver un bout de phrase en me disant, bon, c'est pas si mal. À l'époque, si vous seriez Bambino 12 heures par jour, les gens finissaient par les jeter. Ou alors, ils finissaient par tuer Dalida. Mais c'est fini, les gens de radio. La radio vous impose plus de chansons, maintenant. C'est le net. Ça m'est arrivé une seule fois, avec Noir et Blanc, invendable, parce que les mecs de radio m'avaient dit, tu peux pas faire un succès avec un refrain qui descend. Alors, dans le cahier des charges, c'est comme dans Goldman, il faut que le refrain monte. Vous voyez? La musique, parfois, a des accords majeurs, qui font rire les enfants, mais pas les dictateurs. Le refrain descend. Donc, impossible de faire un tube. Et passe par là Pascal Nègre.
Patron d'Universal?
Non.
Non, pas encore à l'époque.
Attaché de presse freelance.
Ah oui.
Ça va pas. Et ben lui, il me dit, ah bon? Et ben, j'entendais 12 fois par jour Noir et Blanc sur Énergie. Et puis finalement, il les a vus à l'usure, je suppose. Il a fini par les persuader que c'était un tube.
Est-ce que pour vous, c'est ça un tube? Quelque chose qui vous obsède et...
Oui, si, ben si. Moi, j'en connais plein. Biche ou ma biche, lorsque tu soulignes un grand trait noir, tes grands yeux bleus. On se marre. Qui a bien pu écrire ça? Ou Noir c'est noir, Dalida, bon c'est Black is Black, tu vois. Mais des fois je dis les textes des chansons pour rigoler. Et des fois ça craint. Hein. Je me dis, oula, on m'a cassé mes motos. Et si tu coupes mon cœur en deux, tu trouveras ta photo quand même. Faut le faire. Non mais l'écriture, c'est une bataille parce que quand on n'y arrive pas, c'est l'enfer. Quand on y arrive, on souffre. Hein. C'est quand on a fini qu'on est content.
Mais justement, quand vous finissez un texte, ou en tout cas que vous avez le sentiment de l'avoir fini, vous le partagez avec vos musiciens ou avec à quel moment vous dites c'est fini, je peux mettre un point final à ma chanson?
Non, mais moi, quand j'ai fini une chanson, j'en suis content. Ouais, je chante à ma femme, ouais. En premier. C'était à Rio de Janeiro, une ampoule jaune, pendait du plafond. Belle la mélodie. Elle me demandait, avec son regard étrange, tu pars demain. Elle a fait glisser sa bague.
Vous en souvenez?
Ah oui, je m'en souviens, c'est vous le cantin que je vous la chante.
Un petit peu.
De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligé de soi, c'est la ouate.
Tout début 87, Caroline Loeb, il y a un titre qui a fortement marqué les esprits, c'est la ouate. Comment il est né ce morceau?
C'est un vieux copain à moi qui s'appelle Pierre Grier, qui était un copain de boîte de nuit, parce que à l'époque, tout se faisait dans les boîtes de nuit, au palace, au bain-douche, on se croisait tous là-bas. Et un matin, il arrive chez moi avec des petites phrases écrites sur un carnet. Donc Pierre Grier l'avait écrit pour Sylvie Vartan, et il écrivait toujours beaucoup de chansons. Et il y a ces quelques phrases, de toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. J'opte pour le soft, dit-elle. Je me souviens des phrases que j'avais pas choisies. Elle aimerait se lever pour pisser, mais toutes les photos d'elle sont des photos couchées. Je m'en souviens comme si c'était hier. Et je flash sur ces quelques phrases et je commence à écrire des phrases autour. Puis on a fait quelques allers-retours et le texte est sorti comme ça. Ça a été très facile à faire. Ça a été vraiment, on met quelques phrases, on met d'autres phrases, on fait la musique, on trouve le gimmick.
Paresseuse. Paresseuse, elle est paresseuse. Est-ce vraiment la paresse? Ou trop de quoi ou qu'est-ce? Apparemment, elle est heureuse. C'est la plus heureuse des paresseuses. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligé de soi.
Tout a été facile jusqu'au moment où il a fallu trouver une maison de disques. Parce que personne n'en voulait, en fait. Et tout à coup, en plein mois d'août, il y a eu deux maisons de disques intéressées. Il y a eu Polydor et Barclay. Barclay, dans les années 80, c'était dingue, quoi. Les artistes qu'il avait, il y avait Bernard Lavillier, il y avait Stéphane Echer. Bon, il faut dire aussi que c'est quand même une époque très particulière parce que c'est les radios libres. Donc, c'est un moment où des gens qui viennent d'horizons très différents. Moi, je venais du théâtre et du cinéma.
Toi, mon toi.
Les Lignes des Roses venaient du punk. Kesh Pati venait de la danse. Il y avait des gars qui faisaient des tubes qui étaient pizzaïolo la veille. Enfin, on avait tous une identité pas du tout lissée, pas du tout formatée. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Pierre Lattès, qui était chez Fun, mais qui avant était chez Nova, qui flash dessus à son tour et commence à le passer en ce qu'on appelait à l'époque en rotation lourde sur Fun. Et tout à coup, tout le monde se raccroche les wagons.
Elle s'en fout, elle balance son cul avec indolence.
C'est ça qui était fou avec ces années 80, avec ces radios libres. C'est comme il y avait très peu de médias. C'était transgénérationnel et ça traversait toutes les couches sociales. Et aujourd'hui, n'est plus du tout le cas. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a sa petite niche, chaque quartier a sa radio, sa télé. Donc, c'était ni un truc d'intello, ni un truc de prolo. Voilà, tout le monde écoutait les mêmes chansons.
Passive, elle est pensive, en négligé de soi.
Le jour dont je me souviens qui était un peu le plus magique, c'est... J'étais dans la rue et tout à coup j'entends des éboueurs qui le chantent. Je me dis, ah ouais, quand même. Voilà, la chanson, elle était tout à coup partout. Ça a été vraiment une traînée de poudre.
C'est la ouate. C'est la ouate.
Une histoire aussi dont je me souviens avec émotion. Ce cher Yves Mourousi, donc un jour il interviewe Mitterrand et il lui demande quelle est votre chanson préférée. Et Mitterrand dit, c'est la ouate. Bon, mais moi, je suis convaincue qu'il a dit ça parce que c'était la chanson préférée de tout le monde. Et d'ailleurs, quand il s'est représenté en 88, ils m'ont demandé de venir chanter au Zénith de toutes les manières. C'est Tonton que je préfère. Ce que j'ai fait, évidemment.
En d'autres mots,
elle se laisse faire.
Le plus fou, Caroline Love, c'est que ce tube a complètement dépassé les frontières. C'est-à-dire qu'en France, il était, je crois, numéro 5 au top 50.
Numéro 5. Et vraiment, déjà, on l'entendait partout. Mais en Italie, ils sont devenus cinglés. Ils étaient fous de Selawat. J'avais l'impression d'être les Beatles à moi toute seule. C'était dingue. Et ce qui a été aussi assez magique, après ça n'a pas marché du tout, mais enfin c'était chouette quand même, c'est que Seymour Stein, qui était le producteur de Madonna à l'époque, a signé la chanson et on a écrit une version en anglais qui s'appelait And So What. Je peux vous chanter un bout de refrain si vous voulez. C'est In any position, she has a disposition. For pillows and be mellow, she just wants to be low, and so what? Voilà. Donc ça, ça n'a pas marché du tout, parce qu'en fait, ça a marché partout en français. Même les gens qui comprenaient absolument rien, ils adoraient ça, parce que ça sonnait.
Qu'est-ce qu'elle a changé dans votre vie, cette chanson, Caroline Love?
Elle a tout changé, parce que ça a été comme un espèce de trou noir qui a absorbé tout ce que j'avais fait avant. Et qui a,
jusqu'à aujourd'hui.
Et qui a essayé d'absorber tout ce que j'ai fait après. Donc, je me suis accrochée pour survivre. Parce que bon, 45 tours, on en a vite fait le tour quand même, 3 minutes 30. Hein, je ne vais pas radoter 3 minutes 30 toute ma vie. À un moment donné, c'est bon. Quoi.
De toutes les matières, c'est la Watt qu'elle préfère.
Le moment où sort C'est la Watt, Caroline Love, au milieu des années 80, on est en plein essor des clips.
Oui, c'est très très important évidemment les clips dans les années 80, parce que c'est autant le son d'un disque que les images d'une chanson. Donc c'est l'explosion de Madonna, de Michael Jackson, de Prince, avec des clips hyper sophistiqués, hyper léchés, tournés en cinéma. C'est la première fois qu'on a une chaîne musicale, TV6, c'est l'émission d'Alain Manval, Tam Tam. D'ailleurs, ça a été ma toute première télé, c'était chez lui. Et puis, des clips hyper créatifs, hyper inventifs. D'abord, Philippe Gauthier, qui a tout de même fait le premier clip d'Erita Mitsuko. Marcia Baila, qui est une espèce d'œuvre d'art totale, avec des danseurs, des plasticiens, des peintres. Catherine Ringer, c'est la première qui met la robe à cône de Jean-Paul Gauthier, avant Madonna. C'est d'une créativité folle, avec des références à l'expressionnisme. Cargo de nuit d'Axel Boer, le clip de Mondino, c'est quand même des images qui quasiment sortent d'Eisenstein. Et quand on a fait le clip de Selawat avec Philippe Gauthier, notre référence était Gruau. Donc c'est pour ça que c'est en noir, blanc, rouge. Voilà, donc c'est une époque où les clips sont extraordinairement inventifs, créatifs, tous différents. Et ça ajoute évidemment beaucoup à l'engouement des gens pour ces chansons. Selawat.
Musicalement, dans ce début de décennie, sont arrivés des instruments qui étaient déjà dans les tuyaux, mais auxquels les gros des musiciens n'avaient pas accès, qui étaient les synthétiseurs.
Maxime Le Forestier.
Et pire encore, en 81, 82, est arrivé un engin qui s'appelle le sequencer, qui est l'ancêtre des ordinateurs. En fait, ça permettait de faire des boucles de 16 notes. Et on pilotait un synthétiseur avec cet engin-là, et on faisait des boucles de 16 notes, et il y avait des potards pour faire des nuances, pour faire la puissance. Donc on créait des séquences. Et c'est là que j'ai rencontré Jean-Pierre Sabar. Et Jean-Pierre Sabar était aussi fasciné par les boucles.
Jean-Pierre Sabar, je précise, qui est l'un de vos arrangeurs.
Ça a été une des rencontres les plus importantes que j'ai faites dans ma vie. C'est Schultes qui m'a présenté Sabar. Moi, c'était Schultes plus ou moins mon chef d'orchestre au début des années 80. Puis il a fait un tube, ce con. Il s'appelait Confidence pour Confidence. Et il avait plus le temps. Donc il m'a dit, écoute, je vais t'emmener à Sabar parce que vous devez vous rencontrer. Je me souviens que ma première rencontre avec Sabar a duré 8 heures. Ouais, on a passé 7 heures à parler de séquences. Et il m'a sorti le théorème de Sabar, que je garde encore dans mon cœur et dans ma tête. Il m'a dit, il n'y a pas de succès populaire sans rythmique. Or, les gens qui écoutent tes chansons et qui les aiment sont allergiques à la rythmique binaire, poum, tchik, poum, tchik, poum, tchik, et sont allergiques au son de batterie. Donc, nous allons mettre des divisions par trois dans les divisions par deux, et nous allons remplacer la batterie par des pots. Ça va forcément nous emmener vers le sud. Est-ce que tu es d'accord?
Donc en fait, il introduit les percussions à la place de la batterie, si je comprends bien.
Les percussions et la pulsion ternaire. toutes les musiques de trance sont un mélange de 3 et de 2. On le retrouve chez Brassens tout le temps, hein. Il joue divisé par 2, il chante divisé par 3 ou vice versa. Pa 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 pa. Et le ternaire, c'est vrai que ça va très bien avec la langue française. La langue française, moi j'ai toujours trouvé qu'elle était plus facile à exprimer, à chanter en ternaire qu'en binaire.
C'était un jour d'été, comme on en fait beaucoup, entre mer et garrigue au début du mois d'août. Un air de chanson dans la tête.
Qu'est-ce qui vous pousse à écrire ?
L'envie de chanter, chanter, chanter. Et on chante pas tout seul, on chante pour quelqu'un. Autrement, je suis pas du tout comme était Nougaro ou comme El Hamad, écrire tous les jours. Il m'arrive de passer des mois sans écrire une ligne. Quand j'écris vraiment pour les autres, ça marche pas. Moi, j'ai un fantasme, c'est d'écrire pour des grandes voix populaires. J'ai écrit pour Céline Dion, ça n'a rien donné. J'ai écrit pour Mireille Mathieu, ça n'a rien donné. Pour Hélène Ségara, ça n'a rien donné. Je sais pas, je dois pas avoir la fibre populaire. Enfin, ce type de fibre populaire. Et je le regrette, hein.
Est-ce que c'est laborieux pour vous l'écriture? Est-ce qu'il y a beaucoup de déchets?
Oui. C'est très laborieux. Il y a beaucoup de déchets. Il y a beaucoup de choses qui dorment parce qu'elles sont bloquées et que je n'ai pas encore admis que c'était mon idée de départ qui était foireuse. Je me souviens Pierre Delanoë, vous voyez qui c'était, parce qu'il est mort, c'est un grand auteur de chansons, qui a écrit beaucoup pour Beko, etc. Quand j'étais jeune, je venais d'écrire Ballade pour un traître. Et à l'édition, je la chante à Pierre Delanoë. Il me dit, c'est bien, c'est bien. Vous avez mis combien de temps pour écrire ça? Je lui dis, j'ai mis 2 mois. Alors vous ne serez jamais un auteur.
Choisis pas ses parents, on choisit pas sa famille. Choisis pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris, d'Alger, pour apprendre à marcher. Être né quelque part. Être né quelque part, pour celui qui est né, c'est toujours un hasard.
Né quelque part qu'on connaît tous, qu'on a tous fredonné. Comment elle est née, cette chanson?
L'idée de départ. Vous vous souvenez de Charles Pasqua?
La situation créée en France par la présence d'une forte population immigrée en période de crise économique est porteuse d'un risque grave qu'il ne faut pas se dissimuler.
Et il avait un projet de loi qui disait que...
Les jeunes nés en France de parents étrangers devront désormais accomplir une démarche volontaire pour obtenir la nationalité française.
Donc c'était une remise en cause du droit du sol. Et Philippe, étant dans une école spécialisé, enfin une école publique, hein, mais
votre fils, hein, je pense.
Oui, mon fils aîné, où il y avait beaucoup de malentendants et beaucoup d'enfants d'étrangers, puisqu'ils étaient spécialisés dans les enfants qui avaient des difficultés de langage. Et son meilleur pote, c'était Francis, qui était un fils de Boat People, né en France, de parents qui travaillaient dans un restaurant vietnamien du coin. Et je les regarde, je me dis, merde, si ces lois-là passent, ils vont avoir les mêmes profs, ils vont avoir les mêmes gonzesses, ils vont peut-être voler le même scooter à 15 ans, Philippe se fera engueuler par moi, par un flic ou par un juge, et l'autre, il va se faire jeter de son pays natal, ce qui est quand même pire que la mort chez les Grecs. Et en rentrant le long du jardin des Tuileries, est-ce que les gens naissent égaux en droit à l'endroit où ils naissent? Et au début, c'était une petite samba absolument charmante, et c'est Sabar qui a mis les cœurs.
Qui l'a africanisé.
Qui l'a africanisé, qui m'a dit c'est ça la couleur. Il y avait à l'époque chez Polydor une nouvelle équipe dirigée par Marc Lombroso qui était hyper compétente et qui avait vraiment envie que ça marche, quoi. Marc Lombroso m'a dit mais tu sais c'est pas interdit de faire un tube. Et puis ils ont ramé pendant 10 mois et la chanson a fini par s'imposer.
Il y avait aussi un clin d'œil à ce film qui avait eu beaucoup de succès à l'époque et les dieux sont tombés sur la tête.
Oui, bah parce que moi j'avais fini ma chanson, elle était bouclée, je pouvais rien ajouter à ça, et Sabar me met la ligne de cœur, en disant il faut faire des paroles là-dessus. Je lui dis mais attends, et j'ai eu l'idée de mettre une langue étrangère. Il y avait, c'est vrai, les dieux sont tombés sur la tête, qui avait un gros succès avec cette langue, enfin une des 3 langues d'Afrique du Sud, où il y a des crocs. Donc c'est intéressant les clics quand même. Crocs.
Quoi,
Et c'est Myriam Makeba qui chantait comme
voilà,
ça.
Voilà, Myriam Makeba chantait comme ça. Ouais. Donc je me suis dit, je vais faire un refrain avec une de ces langues-là. J'ai appelé Radio Nova, qui était hyper pointue sur les musiques du monde et tout. J'ai eu une fille remarquable qui s'appelle Bintou Simpore, qui m'a dirigé vers 5 Zoulous. Et on a fait 20 pistes.
Trop de blabla, me dit cet homme-là. Trop de tracas, j'ai donné déjà. Trop de tracas, il me cause cet homme-là. Trop de blabla, j'ai donné déjà. En ce temps-là, oui, je le dis. La femme prend trop d'assurance, du moment que, oui, c'est elle qui assure le toit et la pitance. En plus, dans l'homme, c'est un acquis. La femme n'a plus de confiance, il la traite mal, c'est mon avis, ouais. Il la fait souffrir à outrance.
Princesse Erika.
Oui, c'est moi.
Vous avez à votre actif deux tubes. Le premier qui est sorti en 1988, qui s'intitule « Trop de blabla ». Et le second, « Faut que je travaille » en 1995. Est-ce qu'on peut revenir sur ce premier tube ? Dans quelles circonstances vous l'avez créé ?
Alors, « Trop de blabla », je l'ai créé par nécessité, on va dire. Parce que moi, je suis quelqu'un qui suis très réactif et qui parle que de choses qu'elle connaît. Donc, à cette époque, j'étais dans un milieu très machiste. Et il se trouve que j'étais avec un homme à l'époque qui me tapait dessus. Voilà. Mais nous, enfin je dis nous parce que nous étions plusieurs dans ce cas, on ne voyait pas ça comme de la violence conjugale. Nous, on se battait. C'est-à-dire que pour moi, mon mec, il ne me tapait pas dessus. Mon mec me tapait et je lui rendais les coups. Enfin, comme je pouvais, je perdais puisque j'étais une femme et plus faible physiquement. Mais c'est-à-dire que je n'avais pas l'impression de me laisser faire et je n'avais pas l'impression d'être victime. Moi, ma façon de rétorquer, c'était de décrire. J'aime pas garder au fond de moi des choses qui me font mal. C'est-à-dire que ces hommes qui voulaient qu'on se taise sous les coups, qu'on accepte de se faire tabasser sans rien dire. Et je me suis dit, non, là, c'est pas possible. Et là, c'est trop de blabla, me dit cet homme-là. Et surtout que ce milieu machiste Rasta de l'époque, en tout cas, était très virulent avec les femmes. C'est-à-dire que les femmes, elles devaient pas montrer leur log, se couvrir la tête, pas parler en public. Et je me rappelle, je faisais partie d'un groupe de femmes, enfin, où il y avait pas mal de femmes, il y avait aussi un batteur, et j'avais du rouge à mes ongles. Et je jouais comme ça, et il y a un des mecs qui assistait à une répétition qui me fait « Ouais, voilà, il faut toujours que t'en fasses trop. » Et je me suis dit « Non, les mecs, mais fermez juste vos bouches, quoi, parce que on va commencer à faire ce qu'on veut. » Voyez-vous ? Et la chanson, elle est vraiment née de ce sentiment de « On peut pas parler, mais on va parler quand même, et on va raconter ce que vous nous faites subir, les gars. »
Est-ce que vous aviez conscience d'être un peu une pionnière, Princesse Erika ? Parce que ce sont des thèmes qui ont été beaucoup repris depuis quelques années, notamment je pense à Balance ton porc, Me Too, Angèle avec Balance ton quoi ou...
Alors moi, comme c'était des choses que j'avais subies, j'avais pas l'impression d'être une pionnière de quoi que ce soit, j'avais surtout l'impression de me délivrer d'un poids et de raconter des histoires. Moi, c'était ça qui m'intéressait dans la vie. Mais au moment où je le fais, non, on se doute de rien. Ce que je trouve un peu dommage, enfin dommage, c'est la vie qui est comme ça, c'est que donc ce mouvement MeToo, Balance ton quoi, etc. est arrivé et que, alors maintenant, oui, j'ai beaucoup de gens viennent à moi en me disant « Mais vous étiez donc cette pionnière. » Mais ces femmes n'ont jamais fait référence. Il y en a une que je remercie d'ailleurs ici, c'est Iseut, qui a dit « Je fais de la variété et je raconte des choses personnelles comme pouvait le faire Princesse Erika. »
Iseut voilà. Qui a dénoncé la grossophobie notamment.
Voilà, exactement.
Est-ce que vous aviez pressenti, Princesse Erika, que ce premier titre, donc « Trop de blabla », allait prendre son envol ?
Alors, non seulement pas du tout, mais surtout une fois qu'il a été enregistré, fin 86, j'ai un peu fait le tour des maisons de disques de l'époque. Donc, je suis allée voir Epic, Barclay, enfin Polygram, enfin quelques labels comme ça. Et ils m'ont tous jeté le titre à la gueule. Ils m'ont tous dit « Non, mais bon, t'es mignonne, mais bon, non. » Quoi, voilà. Et là, je rentre dans une compilation éditée par Gilbert Castro qui s'appelait « French Connection ». J'étais la seule fille. Il y avait Pablo Master, Daddy Yod, General Murphy. Enfin, il y avait tout un tas de Mikey Mossman, la cocaïne, c'est le chemin de la mort. Enfin, il y avait des trucs extraordinaires. Et je me rappelle, on part faire une télé, FR3, ça s'appelait, je pense, à l'époque. Et on passe en dernier avec la musique du générique sur notre prestation. Enfin, vraiment, bof, quoi. Et là, tous les gars que j'avais été voir voient cette émission et veulent tous signer. Et je leur dis, mais les gars, vous m'avez dit que c'était de la merde. Moi, je n'ai jamais dit ça.
Finalement, ce que ça raconte, c'est qu'ils n'ont pas tant de flair que ça, ces professionnels de l'industrie du disque.
Ah, mais moi, je pense qu'ils n'en ont aucun. Alors, il y avait des vrais pionniers, moi, ce que j'appelle les vrais chercheurs, ceux qui diguent, qui creusent. Je pense à Philippe Constantin, Emmanuel de Burtel.
Alors, Philippe Constantin, je précise, qui était chez Barclay, et puis Emmanuel de Burtel, qui lui était chez Virgin, c'est ça ?
Virgin, exactement, que je voyais, moi, dans les sound systems, venir écouter tout seul, au milieu de petits blancs, mais tous ces noirs, venir écouter des ragamuffers, etc. Et ça, c'est des mecs que j'ai vus sur le terrain. Ou Didier Varro, qui était assistant de Jean-Louis Foulquier sur ses émissions.
Pollen.
Voilà. Eux sont des mecs qui écoutent du son, qui écoutent les artistes et que ça intéresse. Et donc les médias ont énormément contribué à ce succès.
Vous commencez toujours par composer à la guitare ou le texte vient avant ou au piano ?
Je compose ou à la guitare ou au piano, parce que moi j'ai une formation, j'ai fait du solfège. Et,
vous êtes allé au conservatoire, vous, dès l'âge de 5 ans, c'est ça ?
Oui, j'avais des parents qui voulaient absolument. Même si mon père était un guitariste qui n'avait pas fait le conservatoire, mais qui jouait à Randroès et des choses comme ça, et qui nous a initiés à la guitare, il a tenu à ce que, et ma mère aussi, beaucoup, à ce qu'on ait des bases. La musique, c'est sérieux. Donc moi, ce qui me vient, c'est pas forcément la musique ou le texte, c'est le gimmick.
C'est ce que les jeunes aujourd'hui appellent les top lines.
Les top lines. Alors les top liners, maintenant, c'est... Avant, dans la musique urbaine, surtout, t'avais le producteur qui était très important. Et maintenant, c'est le top liner qui est très important. C'est-à-dire, c'est celui qui trouve, Pouloulou, posé sous Jack dans mon bendo. Pouloulou, ça fait tout. Je parle de réseau de Niska. Le mec qui a trouvé ça, lui, il a tout trouvé, quoi. C'est le gimmick, c'est le truc qui va accrocher l'oreille. Et moi, c'est ce que j'aime trouver. Par exemple, dans mon dernier single, elle se fait appeler Nati, mais elle n'est pas Jed. Tu vois, pour moi, ça va ensemble. La mélodie et le texte font corps. Et c'est ce qui donne ce gimmick, qui va faire que ah, moi, je suis hooked parce que. Ok, c'est ça, d'accord, ok, j'ai compris. Ou alors, je pourrais te dire, j'ai 10 ans. Eh bien, je trouve que cette phrase, elle est magique. Parce qu'on a tous eu 10 ans, on va tous avoir 10 ans, enfin voilà. Et donc Souchon, il a trouvé quelque chose d'universel, qui parle à tout le monde, et qui fait qu'on est attrapé. Voilà, moi c'est ça qui me plaît. Ça me parle, ça me touche, je le reçois. Moi c'est ça que je veux faire.
Oui, Bertignac. Alors, on est en 1982, lorsque sort le quatrième album de Téléphone, sur lequel figure la chanson Cendrillon.
Ouais.
Comment elle est née, cette chanson ?
En fait, c'était pour essayer un nouveau micro que j'avais acheté d'occasion, qui est un très vieux micro. Donc, j'enregistre un truc, genre, à l'ancienne, un truc un peu sur le rythme de You Can Hurry Love. No. Alors ça donne un truc comme
ça. C'est quoi, c'est Phil Collins ça ?
Oui, en fait, à la base c'est Diana Ross, mais Phil Collins l'a reprise. Et ça fait tom 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 tom. Et j'improvise une mélodie de voix là-dessus. Je fais tourner une mélodie et puis je me dis, oh, elle est marrante, elle est catchy la mélodie. Et Je me dis, qu'est-ce que je pourrais mettre comme texte là-dessus? Parce qu'au bout de quelques mois, elle reste dans ma tête et je me la réécoute tout le temps. Je fais des chœurs, je fais une autre guitare, je mélange des trucs, je mets la batterie. Et une boîte à rythme, évidemment. Et d'un autre côté, j'avais une chanson qui parlait de Mickey, Goldorak. Et donc, je me dis, ouais, peut-être ça serait pas mal de mettre ce genre de texte sur cette musique. Ça fait... Cendrillon n'a plus 20 ans, plus d'enfants depuis longtemps, nanana, nanana, etc.
Cendrillon, pour ses 20 ans, est la plus jolie des enfants. Son bel amant, le prince charmant, la prend sur son cheval blanc. Elle oublie le temps dans ce palais d'argent. Pour ne pas voir qu'un nouveau jour se lève, elle ferme les yeux et dans ses rêves, elle part.
Pendant que je travaillais sur ce morceau, j'appris la disparition de Romy Schneider, qui était quand même un peu ma Cendrillon, c'est-à-dire que c'était Sissi, c'était la plus grande princesse de mon époque.
Sissi l'impératrice.
C'est ça, ouais. Elle jouait Sissi, elle était belle comme tout. Et donc pour moi, c'était un peu elle, Cendrillon. Et elle est décédée au moment où j'écrivais ce morceau, donc j'ai pensé à elle en écrivant aussi. Mais c'était une princesse comme Cendrillon. Donc en studio... J'arrive avec cette mélodie, et comme Jean-Louis, c'est le spécialiste des textes...
Jean-Louis Aubert.
Oui, Jean-Louis Aubert. Je lui dis, qu'est-ce que t'en penses? Et il me dit, écoute, c'est vachement bien, mais au bout de deux phrases, t'as fini ton morceau, c'est con. Et il m'écrit, Cendrillon, pour ses 20 ans, est la plus jolie des enfants. Ah ouais, ouais, c'est pas con. On fait un couplet sur quand elle est petite. Je lui dis, on n'a qu'à faire un couplet après. Les enfants se sont barrés. Et troisième couplet, elle tombe dans la dope et elle se flingue. Ah, il me dit, voilà, t'as trouvé.
Ça, c'est rock'n'roll.
Voilà. C'était une chanson, d'un coup, ça faisait une chanson entière, quoi. Merci Jean-Louis. Et donc, avec toutes nos maquettes, on se retrouve en studio, avec un certain mec qui s'appelle Bob Ezrin, qui a réalisé, parce qu'il a fait The Wall, des Pink Floyd, il avait fait Berlin, de Lou Reed, et pas mal d'albums qu'on aimait bien. Et donc, on répète, on fait avancer les trucs, et de temps en temps, le fameux Bob Ezrin revient et nous dit « Faites écouter ». Donc voilà, j'ai trouvé un riff sur ça, c'est vraiment vachement bien. Il me dit « Ouais, ouais, c'est ça, il manquait ça ».
Quelque chose en toi ne tourne pas.
Et puis... Et rien d'autre que toi. Et il me dit, ah, mais c'est bien, il faut répéter que toi. Ah, d'accord. Que toi. Non, rien d'autre que toi. Ah, bah voilà, super. Et puis il me dit, t'as une chanson, il paraît. Je dis, ouais, alors ça fait comme ça. Ah, non. Et il me dit, attends, mais t'es cinglé, t'as pas la voix de Robert Plant pour chanter aussi haut. Alors je dis, bon, alors on descend. Cendrillon. Si tu forces un peu encore, essaye plus bas. Cendrillon. Ah, voilà, c'est bien. Et puis, elle est vachement trop rapide. Ça doit être un slow, ton truc. J'ai dit, mais attends, il est en train de me foutre le morceau en l'air, là. Et j'essaye, et je dis, Cendrillon, pour ses 20 ans, est la plus jolie des enfants. Elle dit, ah, oh. Il me dit, voilà, écoute. Et je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Si, écoute, le bruit des billets qui tombent.
Et la plus triste des mamans, son bel amant a foutu le camp avec la belle au bois dormant. Elle a vu les chevaux blancs loin d'elle emmener ses enfants. Elle commence à boire, à traîner dans les bars, à mitoufler dans son.
Et donc voilà, et on a commencé à l'enregistrer. Je lui ai dit, écoute, c'est toujours pareil, ces accords, c'est un peu chiant. Il me dit, ben ramène-toi, j'ai un piano, tu sais jouer un peu? Je dis, ouais. Il me fout au piano, il me dit, qu'est-ce qui te manque? Ben j'ai... Elle oublie le temps, dans ce palais d'argent. Je dis, là, il faudrait d'autres accords. Il me dit, ben vas-y, cherche, je reviens dans une heure. Alors ça fait... Tiens, je lui dis, j'ai trouvé ça. Elle oublie le temps dans ce palais d'argent. Et j'ai trouvé une suite pour ne pas voir qu'un nouveau jour se lève. Elle ferme les yeux et dans ses rêves, elle part. Jolie petite histoire. Il dit, ben voilà, c'est bon, on peut l'enregistrer. On enregistre le morceau. Et je rentre à l'hôtel avec la maquette du truc qui sonnait bien. Mais il y avait un truc qui me dérangeait. C'est la batterie de Richard qui était un peu bizarre, je trouvais. Alors, au refrain, on n'entendait que ça, tu vois. Elle parle, toum toum ta, toum ta, toum toum ta, toum ta, toum toum ta. Et puis ça m'énervait sur ce genre de morceau qui était un peu slow, comme ça, joli. Ça devait être les fées, la princesse. Je trouvais ça lourd. Je dis, mais on va pas recommencer l'enregistrement. Il me vient une idée diabolique. On va couvrir le toum toum ta. On va faire. Et voilà. Et ça a couvert le toum toum ta de batterie. Et c'était beaucoup plus joli soudain. Donc le lendemain, j'arrive au studio. Je dis, ah, j'aimerais bien rajouter une petite guitare. Et je le fais. Il me dit, oh putain, t'es un génie, Louis. Et puis voilà. Et ça s'est fini comme ça. Il a mixé le truc et c'était le morceau qu'on connaît.
Quel souvenir vous gardez de ces années 80?
C'était très téléphone. C'est-à-dire que c'était les répètes pendant 6 mois, l'enregistrement pendant 2 mois et la tournée qui suivait pendant 6 mois. En gros, notre vie, c'était ça. Sinon, qu'est-ce qui se passait? Pas grand-chose. Ouais.
Vous étiez quand même le groupe rock français des années 80.
Ben, ça, c'est pas à moi de le dire. Moi, de toute façon, c'était mon groupe rock. Donc, j'étais à fond dedans. On pouvait pas juger de quel impact on avait sur les gens. On voyait bien que les salles étaient bien remplies, que les gens s'éclataient au concert. Mais on n'avait pas le temps de s'occuper d'autres choses, ni même des autres groupes. Donc, on savait pas si c'était nous, le groupe de rock, ou Star Shooter, ou Bijou, ou Trust, ou Indochine. On s'occupait pas des autres. On avait tellement de boulot entre nous.
Louis Bertignac, le tube, on le recherche ou on le redoute?
En fait, c'est ni l'un ni l'autre. On ne pense pas tellement au tube dans ces moments-là. On pense à faire des chansons. Quand tu bosses, tu ne sais pas. On a presque à chaque fois misé sur le mauvais cheval quand on était en studio. Tu vois, je sais que sur l'album Un autre monde, le dernier, et la maison dit, c'est à sortir Oublie ça en premier single. Au bout d'un mois, elle voit que ça passe nulle part. Elle dit, on a dû se gourer de single. Et finalement, elle te sort Un autre monde et elle voit que tout de suite, ça prend. Donc, elle décide de faire un clip et ça monte l'album en épingle. Donc, on ne sait jamais quel est le single, quel est le tube. C'est les gens qui décident. C'est quand les gens écoutent ton album, ils te disent ouais, « celle-là, elle est géniale », etc. Mais ça peut devenir un tube au bout de 20 ans. Voilà, Cendrillon, aujourd'hui, on m'en parle comme d'un standard.
C'est là où je voulais en venir, et je crois que c'est le morceau le plus streamé de téléphone aujourd'hui.
Écoute, c'est possible, c'est vachement bien. Ça conforte un peu l'idée que j'avais quand je l'ai entendu la première fois, quand je l'ai joué devant ce nouveau micro. Je sentais qu'elle avait du potentiel, je sentais qu'elle avait quelque chose, mais effectivement, tu sais pas, quand tu bosses, tu sais pas. Et en fait, pendant la tournée qui a suivi la sortie de l'album, premier concert, une petite bagarre rigolote avec Richard, mais ça s'est mal terminé. C'est-à-dire que ma clavicule casse, concert annulé, hôpital à Paris, opération. Et mon manager vient me dire, Cendrillon vient d'être sorti en 45 tours. Ah, je dis, merci, c'est une belle récompense pour un blessé. Et deux jours après, il vient me dire Air France l'a prise et elle va passer dans tous les avions Air France dans le monde. Donc je voyais mon bébé qui allait voyager dans le monde entier et ça me faisait un effet marrant, quoi. J'étais content pour elle et voilà quoi.
Merci à Vali, Philippe Bourgoin, André Manoukian, Bernard Lavillier, Caroline Loeb, Maxime Le Forestier, Princesse Erika et Louis Bertignac. Un grand merci à Fanny Leroy pour sa collaboration à l'écriture, ainsi qu'à Léo de Boutigny, mon stagiaire préféré. Prise de son, Georges Thau et Frédéric Kérou. Mixage, Julien Douminc. Documentation, Annelise Signoret. Attaché de production, Marie-Yvonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Perrine Kervran. C'était Les Tubes de ma vie, deuxième épisode, Mon adolescence pop-rock. Un documentaire de Jérôme Sandelars, réalisé par Agnès Catou.
Notre père, qui est si vieux, as-tu vraiment fait de ton mieux? Car sur la terre et dans les cieux, tes anges n'aiment pas.
Pour comprendre le conflit israélo-palestinien, il est essentiel d'en maîtriser les mots.
Guillaume Erner.
C'est pourquoi Les Matins vous propose un hors-série, un podcast où les meilleurs spécialistes de la région donnent un sens plus précis aux mots de ce conflit.
Hors-série, Les Matins de France Culture. Israël-Palestine, les mots de la guerre.
À écouter sur franceculture.fr et l'application Radio France.